Donc pour cette première table ronde que j'ai l'honneur de modérer, donc je vous remercie de votre confiance pour ça, nous allons voyager parmi des fonds patrimoniaux très différents, comme évoqué Monsieur Lejeune, mais cette richesse de la différence permet en fait une dynamique de complémentarité et donc de manière pragmatique aussi la mise en place d'une politique de coopération interinstitutionnelle. On va être assez concret puisqu'on va parler aussi d'un chaînage de personnes dans l'histoire des bibliothèques qui ont composé peu ou prou des collections à la faveur des acquisitions ou des dons historiques qui aujourd'hui permettent à des lecteurs bien riches en fait de problématiques scientifiques de les exploiter. Donc les mots clés un petit peu de ce matin, c'est évidemment la transversalité, puisqu'on va voir que des fonds se répondent. C'est la transmission, puisqu'on va voir aussi au travers de deux écoles comment s'articule en fait la transmission de l'histoire de ces fonds avec l'histoire contemporaine qu'est l'horticulture. Et puis évidemment, un enjeu de taille qui est celui de la valorisation. Et en cela, on a deux bibliothèques numériques, que ce soit Gallica, la bibliothèque numérique nationale et collective de la BNF, ou la bibliothèque numérique qui est pilotée par Emmanuel Royon au sein de la SNHF, qui sont deux plateformes qui permettent aussi d'avoir une vision de ces fonds historiques sur cet écosystème du web qui, on le sait, est très vaste, foisonnant et parfois difficile dans sa cartographie. Donc pour démarrer, on va passer notre chemin sur Gallica. Grâce à Alina Canto, donc, qui est coordinatrice scientifique au sein du service coopération numérique et Gallica, qui a œuvré précédemment au département des sciences au sein de la BNF et qui va donc vous faire une cartographie un peu raisonnée du travail en coopération avec plusieurs institutions qui a été mené de numérisation sur les fonds en horticulture. Luc Ménapas, qui est chargé de collection en biologie et en agronomie au département des sciences et techniques, qui est un relais extrêmement dynamique et une émulation quotidienne pour les personnes de notre service, notamment, va vous emmener du côté de Nancy. Alors, du côté de Nancy, où il va vous parler, mais je ne veux pas faire plus de dévoiler plus de choses, peut-être de Galet, peut-être une certaine Madame Coué, mais je n'en dis pas plus. Voilà. Je rappelle les règles des interventions qui vont être un petit peu rigoureuses puisque nous n'avons que 20 minutes. Je me permettrai aussi peut-être de vous poser des questions qui seront peut-être naïves ou aussi méthodiques puisque c'est aussi vous donner des outils pour parcourir ces différents fonds. Et à l'issue de chaque intervention, nous avons 10 minutes où évidemment, n'hésitez pas à réagir, compléter, poser des questions puisque un fond n'est vivant que si on en parle aussi. Voilà, mais je n'en dis pas plus et je laisse la parole donc à Alina.
Bonjour à tous. Notre intervention s'intitule « Les sociétés horticoles en région » avec l'exemple de Nancy. Pour commencer, nous vous proposons un état de l'art des publications des sociétés horticoles régionales dans Gallica. Gallica, la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France et de ses partenaires. Nous nous arrêtons plus en détail sur la Société centrale d'horticulture de Nancy, sur ses membres, leurs liens et leurs influences sur la ville de Nancy, notamment l'évolution des parcs. Et enfin, un appel au partenariat pourrait se dégager pour une plus grande couverture numérique des sociétés horticoles au niveau national. Ouais. Voilà. À l'écran, sur cette carte qui date de 1855, qui est présente dans Gallica, On retrouve une répartition des lieux des éditions, des revues qui sont des revues horticoles qui sont présentes dans Gallica. On remarque une couverture inégale. Donc il y a des régions qui sont absentes. Vous voyez, à part Toulouse, la moitié sud de la France est absente. Et le nord et le centre de la France est très peu représenté. Vous avez à l'écran la liste des titres du corpus des revues horticoles que nous avons pu dégager du catalogue général de la BNF. J'espère que vous arrivez à lire un tout petit peu. Cette liste est classée par la durée de parution des titres et un autre graphique suivra à ces propos. Il nous a semblé intéressant de voir, malgré ces corpus restreints, donc une petite trentaine de titres, la durée moyenne des parutions par décennie. Et on remarque que la durée des parutions moyenne sur l'ensemble des corpus est de 38 ans. On voit bien dans les graphiques qui à droite deux pics de parution avec des durées conséquentes dans les années 1850. Et en 1880, avec 79 ans de moyenne de parution. Et c'est là, c'est sans surprise, c'est grâce ou c'est dû au bulletin de la Société nationale d'horticulture de Nancy, qui paraît pendant 130 ans et qui est un titre toujours vivant, d'ailleurs. En revanche, au début du XXe siècle, la durée des parutions se divise quasiment par deux. Et cela peut s'expliquer d'une part par une interruption des titres quasi systématique pendant les années des guerres et d'autre part par les droits d'auteur qui souvent freinent une mise en ligne plus récente. En regardant de plus près ces corpus identifiés, on identifie trois types de publications. D'abord, les publications des sociétés savantes départementales, qui ont pour objectif de rendre compte de leurs travaux, de diffuser les résultats de leurs activités, de soutenir et de promouvoir l'horticulture au niveau régional. À l'écran, vous avez deux exemples qu'on a identifiés, donc les annales de la Société d'horticulture de la Haute-Garonne, parues en 1854. Je reviendrai à la fin de la présentation pour vous expliquer un peu l'image, si le temps nous le permet. Et un autre exemple, la publication de la Société d'horticulture de la Haute-Vienne, publiée de 1879 à 1914 à Limoges. Juste quelques mots sur l'image que vous avez à droite, à l'écran. Vous voyez un arc de triomphe joliment décoré par les soins de la Société d'horticulture de la Haute-Vienne à l'occasion de la visite à Limoges du président de la République de l'époque, Raymond Poincaré, en juillet 1913. Donc, l'arc de triomphe portait l'inscription « Nos fleurs et nos cœurs ». Et le président a reçu un message touchant lors de cette visite. Je cite, « Nos fleurs sont pour vous, messieurs les présidents, et nos cœurs sont à vous et à la France. » Voilà. En complément de ces publications des sociétés savantes, c'est touchant, oui, en effet, on identifie des revues spécialisées qui touchent un autre public et qui ont pour objectif de rapprocher les spécialistes du terrain et l'enseignement agricole. C'est le cas pour la revue agricole et industrielle de la Côte d'Or, parue pendant 2 ans. Et un autre exemple qu'on a retenu, c'est les bimensuels Le Nord-Est agricole, qui paraît également pendant 2 ans. À droite, à l'écran, vous avez un article très pointu sur la culture, les variétés, la composition chimique des pommes de terre. Bon, on est dans le Nord, donc c'est cohérent. Donc la pomme de terre, une des plantes, je cite, des plus précieuses que le créateur ait donné à l'homme. Enfin, dans le corpus, on identifie des publications qu'on peut qualifier d'éphémères, liées à un événement en particulier, comme c'est le cas de l'exposition industrielle, agricole et horticole de Saint-Dizier de 1860. Donc la publication n'est dure que sur la période de l'exposition. Il y a 15 numéros en tout. Ah, c'est dommage, on a un graphique dont je vous ai parlé tout à l'heure sur l'état de la complétude des revues dans Gallica. Je pense qu'il y a, un problème de version. C'est dommage qu'on n'a pas un PDF. Je ne peux pas le commenter. Voilà, on avait fait un graphique sur l'état des complétudes des collections d'Angalica. Donc, on voyait qu'il reste un effort à faire sur les titres qui sont déjà disponibles pour arriver à compléter au mieux ces corpus.
Alina, oui, peut-être. Oui, peut-être expliquer comment on trouve ces revues dans Gallica.
Oui, voilà.
Alina et Luc.
Voilà.
Les graphiques.
Oui, les graphiques. C'est, donc on va aller sur un navigateur.
Donc en fait, il y a plusieurs méthodes en fait pour cibler un petit peu ce corpus. Donc soit passer par le catalogue, soit passer directement dans Gallica. Donc est-ce que vous pouvez rapidement expliciter un petit peu
les moyens. Voilà, les moyens qui nous ont permis d'identifier ces corpus à part le catalogue général. On va aller dans les pages sélection, ce sont les pages de médiation des Gallica, dans les corpus jardins. Voilà, on a les cheminements que vous voyez à l'écran, donc les corpus jardins, art des jardins, et on arrive à une liste de dictionnaires et de revues. Voilà, les revues horticoles. C'était déjà un travail de médiation qui a été fait autour de revues horticoles et d'agronomie. Voilà, ça c'est un des cheminements. Voilà, on peut aller dans l'onglet presse aussi. Les revues savantes. Voilà, vous avez la liste des départements et tu peux choisir un département. Voilà, Meurthe-et-Moselle, par exemple. Voilà, on retrouve bien les bulletins de Nancy, voilà, donc la Société centrale d'horticulture de Nancy avec son bulletin. Et aussi, on peut accéder à ces corpus, à la valorisation de ces corpus par aire géographique, en choisissant France. Et donc Occitanie, par exemple, on peut avec Haute-Garonne. Et les revues savantes qui sont voilà, donc il y a la liste des sociétés savantes où on retrouve aussi les revues d'horticulture. Voilà, vous avez vu un peu les cheminements que Gallica nous permettent et mettent en valeur le corpus de revues des sociétés savantes. Je laisse la parole à Luc. On va rentrer plus en détail dans un exemple, l'exemple des Nancy.
Donc je vais vous parler d'un exemple qui est donc celui de la Société centrale d'horticulture de Nancy. Il est intéressant parce que c'est le titre qui est le plus complet dans les revues horticoles qui soient présentes dans Gallica. Comme on l'a dit, il y en a plus de 130 ans, enfin, pas tout dans Gallica. La société date de 1877. Alors, un petit historique de la société. Donc là, vous voyez sur l'écran deux couvertures de bulletins. C'est quand même des bulletins beaucoup plus austères que la revue horticole. Hein. Donc là, on a trouvé au moins une couverture avec un peu de couleur. Ouais. Voici donc un portrait des différents membres de la société. Alors, on reconnaît au deuxième rang avec un chapeau melon, c'est Émile Gallet dont je vais reparler tout à l'heure. La société horticole a pour origine la Société centrale d'agriculture de Nancy, et non d'horticulture, donc créée en 1820. Beaucoup de sociétés savantes ont leur origine au XIXe siècle. Elle publie elle-même un bulletin qui s'appelle Le Bon Cultivateur, qui a duré plus d'un siècle et demi, et possède une section d'horticulture. Donc pendant un demi-siècle, il va y avoir simplement une section, mais en 1877, leurs membres décident de créer une société pour eux, enfin à eux, qui s'appelle Société Centrale d'Horticulture de Nancy, qui fait apparaître un bulletin dès son origine. Et l'événement qui a poussé à cette création, c'était en fait, au milieu de 1877, une exposition, un concours agricole qui va se tenir dans le parc de la Pépinière, qui est le parc principal de Nancy, et qui donc va leur permettre de montrer leur existence. C'est intéressant d'ailleurs de regarder dans le premier bulletin un peu cette création. Donc la société est créée en janvier, le bulletin en juin, et donc qui annonce les premiers événements. Et dès la première réunion du conseil de l'assemblée de la société, on décide de s'organiser pour faire justement cette manifestation, cette exposition, à laquelle les membres de la société vont participer en offrant des plants et des arbres. Il faut voir aussi le contexte particulier de Nancy, à la fin du 19e, au début du 20e siècle. Nancy est proche de la frontière qui vient de se créer, avec la perte de l'Alsace et de la Moselle. En 1871, les populations d'Alsace et de Moselle doivent choisir ou rester dans ce qui est maintenant l'Allemagne ou émigrer en France. Donc il y a un fort afflux en France, particulièrement en Lorraine et à Nancy, qui est juste au niveau de la frontière, qui va faire que la population de Nancy va doubler. Il va y avoir aussi l'installation d'activités économiques, de personnes avec des qualifications diverses, entre autres en horticulture, ce qui va enrichir la ville de tout point de vue. Autre élément, c'est la présence à Nancy d'un certain nombre d'horticulteurs renommés qui ont envie d'avoir leur société. Je vais citer quelques noms, Victor Lemoine que vous voyez à l'écran, il y en a d'autres, François-Félix Crouse qui était un spécialiste du bégonia, le premier président de la société, Jules Léon Simon qui était rosieriste, etc. La particularité de Nancy, ça va être sa place au niveau artistique, au niveau de l'art nouveau, et les différents à la fois artistes et producteurs vont créer en 1901 ce qu'on appelle l'école de Nancy, et donc son représentant le plus connu étant Émile Gallet, qui a de forts liens avec la société d'horticulture. Je vais vous présenter quelques personnes. À l'écran, Victor Lemoine, dont vous voyez le portrait ainsi que deux planches tirées de la revue Horticole. Donc, ce sont ces obtentions de Glaïeul. Donc, sa spécialité, c'était l'hybridation. Il en a créé des centaines. Il y a eu une publication il y a quelques années de la SNHF sur lui. Donc, vous pouvez vous y reporter. Victor Lemoine, qui est lorrain, crée un établissement horticole qui va lui survivre pendant un siècle, puisqu'il sera repris par son fils et son petit-fils. Donc sa spécialité, l'hybridation, que ce soit fuchsia, glaïeul, lilas, etc. Quelques noms d'obtention qui sont assez marquants de l'époque, Gloire de Nancy, Perle de la Lorraine, Belle de Nancy, voilà. Sans compter toutes les obtentions patriotiques. C'est donc le premier, au moment de la création de la société, le premier vice-président de la société. Sa réputation dépasse les frontières puisqu'il va recevoir des décorations étrangères, que ce soit la Royal Horticultural Society, la Société d'horticulture de Boston, etc. Il appartient à une grande lignée, puisque c'est arrière-petit-fils de jardiniers et d'horticulteurs. Lui-même, donc, son fils lui succédera, son petit-fils après. Pour la petite histoire, donc, sa fille épouse donc, le fameux Monsieur Coué, hein, qui est l'auteur de la fameuse méthode, hein, dont il y a une statue à Nancy. Il est aussi donc membre d'autres sociétés comme la commission de surveillance du jardin botanique dont je vais reparler, et aussi membre d'honneur de la SNHF. Il a donc des liens aussi avec le jardin botanique, je l'ai dit, puisqu'il connaît bien le jardinier en chef qui lui offre ses nouveautés, et en échange il lui offre ses obtentions. Autre exemple. Sur la droite, donc un vase d'Émile Gallet. Donc, il s'agit d'une obtention de Lemolle en 1882 d'une prévue vers Madame Émile Gallet, donc, dédiée à la femme de son ami. Et deux ans après, Émile Gallet en fait un vase donc, avec la fleur et qu'il dédie à Lemoine. On verra donc les liens qui existent entre les différents membres de la société. Donc on voit à gauche un portrait d'Émile Gallet à l'œuvre. Avec, ce qui est bien, c'est que ça résume vraiment son œuvre. Donc des plantes en décoration sur la table dont il est en train de s'inspirer pour créer ces fameux vases. L'image est issue d'un rapport d'une exposition dont je vous parlais un peu. Dont je vous parlerai un peu plus tard. Donc voici un plan de la ville de Nancy. Alors je vais vous parler un peu de plusieurs parcs qui existent, parcs et jardins qui existent dans cette ville, et des liens avec la société d'horticulture. Donc on voit, enfin on ne voit pas très bien, mais... Donc on voit dans cette partie un grand carré qui est le grand parc de Nancy, le parc de la Pépinière. À sa droite, plus petit, le jardin botanique. Et au sud, je ne vois pas très bien, voilà le parc Sainte-Marie, qui sont les principaux parcs du centre de Nancy. Le parc de la Pépinière donc, se situe proche du centre-ville, donc à l'est de la place de la Carrière, donc entre cette place et la Meurthe. Il a été créé en 1765, juste avant l'annexion par la France, sur l'emplacement des anciens remparts et des fossés. C'était des terrains vagues à l'époque. C'est créé donc, pour faire une pépinière, donc alimenter à la fois Nancy et le duché en plan. Il devient très vite, il est très vite ouvert au public. Sa fonction de pépinière va péricliter. En 1835, on décide de le transformer vraiment en parc public. Tout au long du 19e, on va l'équiper de toutes les nouveautés possibles et imaginables, kiosques à journaux, éclairage au gaz, on installe une roseraie. Maintenant, il y a même un mini-golf, enfin, même guignol, il y a tout ce qu'il faut dans ce parc. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, en 1877, il va être réaménagé, enfin une partie du parc, pour accueillir cette fameuse exposition. Et un quart du parc va être transformé à l'anglaise. Donc, ça sera, vous voyez, on a encore la trame de la pépinière, mais une partie va être un peu aménagée. Autre jardin important, le jardin botanique, donc, qui est créé en 1758, donc encore à l'époque du duché, par un médecin du roi Stanislas. 10 ans après, il va bénéficier de la fermeture de l'université jésuite de Pont-à-Mousson, dont il va récupérer le jardin botanique. Il va donc bénéficier de cet apport. On voit donc plusieurs sur ces plans, donc l'organisation en planche, sur le plan de droite, la création de serres. Au 19e, en 1854, avec la création de l'université de Nancy, le jardin va, va revenir donc à l'université, à la faculté des sciences, et le premier professeur de l'histoire naturelle de cette époque, qui s'appelle Gaudron, donc va récupérer la direction du jardin et va avoir de forts liens avec la société, puisque c'était un spécialiste de l'hybridation qui va être fortement développé par des gens comme Lemoine, et ça va être aussi le maître d'Émile Gallet. Actuellement, enfin, en 1930, le jardin va être transformé, va être amputé pour récupérer une partie des terrains pour l'université. Et actuellement, en fait, il appartient à un ensemble de jardins botaniques, que ce soit à l'extérieur de Nancy ou dans les Vosges. Autre parc, autre style, je dirais, le parc Sainte-Marie. Donc, lui se trouve à l'extérieur de la ville par rapport au centre-ville du 17e. Il est acquis à cette époque-là par les jésuites qui s'en servent de potager. En 1770, ils sont forcés de le vendre, puisque l'ordre des jésuites a été... Enfin, la compagnie a été expulsée. Donc il est vendu à des particuliers. Tout le 19e siècle appartient à des particuliers. Avec l'extension de l'urbanisation, il va se retrouver donc aux limites, puis intégré à la ville, et la question va se poser de savoir que faire de cet espace. Donc il va être acheté par la ville de Nancy en 1904 et transformé en parc public en 1905. Alors, vous avez sur l'écran le projet qui a été adopté, plusieurs autres projets proposés à l'époque. Donc on voit à la fois différents styles, soit des plutôt à l'anglaise, avec des avenues plutôt courbes, ou alors des choses beaucoup plus droites, ou des lotissements. Donc voilà. Donc il s'intègre dans les projets d'urbanisme. En 1909, il va être le siège d'une exposition internationale de l'Est de la France. Donc le portrait d'Émile Gallet était tiré de son rapport. On voit donc sur la partie verte donc le parc, et ainsi que la partie au nord. Et en rose, les différents pavillons qui ont accueilli les différentes activités. Alors c'était l'exposition de l'Est de la France, pour bien rappeler que la France regardait vers l'Est et vers ses provinces perdues. Différents pavillons pour expliquer donc les productions. On voit ici le pavillon de l'école de Nancy. Gallet était mort, mais donc on lui a rendu hommage. Et historiquement, c'est un peu donc cette exposition, le chant du cygne de l'école de Nancy. En 1926, on va installer dans ce parc une statue de Victor Lemoine, pour vous montrer un peu les liens qui peuvent exister entre ces différentes personnes. En conclusion, je dirais que d'avoir regardé un peu ce bulletin de la société horticole, ça se révèle une source précieuse pour faire tout ce qui est la prosopographie, de l'étude un peu des milieux professionnels, amicaux, qui peuvent exister, en l'occurrence dans celui des horticulteurs de la ville de Nancy. Mais si on pouvait l'étendre à toute la France, on voit un peu le fruit qu'on pourrait en tirer.
On va revenir sur la carte présentée en début de l'intervention, sur laquelle donc, vous avez la présence des titres horticoles qui sont déjà présents dans Gallica, pour vous lancer un défi détail. On souhaite une couverture nationale des publications horticoles. Voilà, donc ça... Il reste beaucoup de travail à faire. Vous avez à l'écran un aperçu des titres à numériser au niveau d'un département. Donc on a choisi Seine-et-Oise, puis Yvelines. Et si on multiplie par 100, on va s'imaginer au niveau national le nombre de titres qui restent à numériser. Et voilà, plusieurs centaines. Et c'est juste le début de l'alphabet. On a commencé par A, mais donc beaucoup de chemin à parcourir pour arriver à Z. Bon, je vous remercie.
Merci beaucoup. Donc vous le... Donc vous avez déjà un premier appel du pied hein, qui s'est fait, puisque il y a donc détecté des lacunes dans les collections qui sont déjà numérisées dans Gallica, et ce n'est que collectivement que l'on pourra petit à petit éliminer les trous du gruyère numérique. On va prendre quelques instants pour savoir si vous avez des questions spécifiques sur la présentation qui vient d'être faite, soit revenir sur les slides qui ont été présentés, soit des questions annexes autour du sujet, que ce soit Gallica ou l'école de Nancy.
Mais pas qu'à la SNHF, merci. C'est que les titres sont sujets à passer de mode parfois en relation avec les évolutions des régimes politiques. Nous avons eu à la SNHF trois phases. Une phase où nous avions des bulletins, une phase où nous avons eu des annales, une phase où nous avons, etc. Toutes les sociétés d'horticulture ne portent pas le titre d'horticulture. Elles peuvent être sociétés d'agriculture et de botanique, sociétés d'apiculture et de forêt. Enfin, il y a une. On peut même pas classer, on peut faire une typologie des titres, tellement c'est varié à l'époque. Et de plus, évidemment, il y a eu des sociétés dissidentes. Toutes les grandes sociétés ont eu leur crise de croissance ou de gouvernance. À Lyon notamment, à un moment, des gens qui n'étaient pas d'accord avec la gouvernance de la société, pour des questions qui pouvaient être politiques, mais pas forcément politiques. Ça peut être de l'équilibre entre les professionnels et les amateurs, entre les horticulteurs de salon et les horticulteurs de terrain, etc. Créer une nouvelle société qui soit va prospérer, soit va s'éteindre. Si elle s'éteint, on n'en parle plus, c'est un petit bout de collection qui a son intérêt, mais bon, c'est tout. Ou alors qui va refusionner. Je ne sais pas si Emmanuel en parlera tout à l'heure, mais nous avons vécu, par exemple, en 1841, l'émergence d'une société dissidente de la Société royale d'horticulture de France, parce que l'essentiel des adhérents trouvait qu'on ne faisait pas assez d'expositions, bref, qu'on n'avait pas suffisamment de vexion de l'intérêt économique de l'horticulture dans le mouvement. Donc, créer une nouvelle société, qui elle-même a changé trois fois de nom, mais ça n'a pas d'importance, et c'est en 1854 que, par décision politique nationale, les deux sociétés refusionnent ensemble sous la présidence commune du comte de Morny. Donc, on a deux ancêtres, et une descendance et de temps en temps des bourgeonnements comme ça. Donc il ne faut pas s'étonner qu'il y ait parfois des lacunes apparentes. Voilà, j'insiste pas davantage, mais c'est encore plus riche et plus compliqué que ce qu'on peut croire.
C'est un sujet en soi. Hein.
Voilà.
Et là, quand on parle de lacunes, c'est vraiment un numéro qui a existé, etc. Et dont il nous faut retrouver en fait le document pour le numériser. On n'a pas en fait les écueils ou les variables historiques d'une collection qui fait qu'à un moment donné, c'est ce que montrait à un moment donné le graphique qu'on a. Dalina, c'est que justement dans des phases historiques, il y a soit des ruptures, soit des affaiblissements en fait de publication.